Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez suivi des hommes politiques en quête de voix avant de prendre la leur. Cela vous a permis de devenir l'élu d'un public que vous faites rire depuis plus de 8 quinquennats. Bonjour Pierre Douglas.
Bonjour mon cher Jacques.
Alors, il y a un livre qui sort, vos mémoires, « Rire au paradis ne serait pas convenable », alors n'attendons pas, chez Fortuna, n'attendons pas pour parler de votre vie, de ce livre, mais aussi de votre vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 4 juin 1964. C'est le jour où vous débutez comme animateur, d'après mes renseignements.
C'était la première fois de ma vie que je parlais dans un micro à la radio, grâce à José Arthur, qui animait une émission à l'époque sur Inter tous les soirs à 20h30, s'appelait Les Arts du Gauss, parce qu'il y avait Arthur, Dupont et Godard.
Oui.
Et je venais de quitter l'école des cadres du commerce, où j'avais animé la soirée de la promotion qu'on fêtait tous ensemble. José Arthur était venu, et il m'a convoqué quelques jours plus tard. Il m'a dit, j'ai une émission à vous confier, Vous êtes bien au micro, vous êtes bien. Il avait parfaitement raison.
Oui, alors il avait beaucoup d'esprit. Il a dit un jour, j'ai eu au micro des gens qui sortaient de prison, j'ai eu des ministres, sûrement des gens qui vont y entrer.
C'est tout à fait son esprit.
Alors, l'imitation, Pierre Douglas, déjà à l'école, vous avez commencé pour vous faire remarquer, vous imitiez vos professeurs.
J'adorais imiter mes professeurs pour une raison très simple. J'ai découvert, lorsque j'avais 7 ou 8 ans, que j'aimais faire rire et que c'était pour moi déclencher un rire d'une seule personne, c'était un succès. Et j'ai toujours eu envie d'avoir du succès par l'intermédiaire de l'humour et par l'intermédiaire du rire. Et c'est la raison pour laquelle j'aimais bien imiter mes profs. Je trouvais le petit travers et la classe était contente.
Voilà, mais le succès, c'était pas l'école. Je crois que vous avez fait plusieurs écoles.
D'écoles. Oui. Il y a même quelques-unes que j'ai oubliées.
Oui. À chaque fois, c'était une orientation différente. Et vous vouliez déjà faire de la scène. Et c'était pas le genre dans la maison, parce que je crois qu'Horace, votre père, était un professeur très sérieux.
Horace, mon père, était professeur d'allemand et d'anglais. Il était très sérieux. Et puis ma mère était choriste à l'ORTF.
Oui.
Donc on n'était pas branché pour aller sur ce genre de choses, mais ça m'a jamais quitté l'idée d'aller sur scène.
Mais votre père chantait Goethe, mais en allemand, je crois.
Oui, il chantait Goethe en allemand, il chantait Alkönig,
oui,
et la musique de Schubert. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait au bac. J'ai royalement échoué au baccalauréat, mais j'ai eu 20 sur 20 en musique, puisque j'ai chanté Alkönig. Et lorsque je suis arrivé avec la partition, la pianiste m'a dit « il y a trop de notes », ce qui fait que j'ai chanté a cappella.
C'était un beau succès. Alors, si vous vous appelez Pierre Douglas, c'est à cause d'un comédien bien connu du muet, Douglas Fairbank, qui a fait un truc un jour dans Paris. Il est arrivé voir ses fans au Crayon. Il a fait le trépied. Donc, toutes les pièces sont tombées par le balcon et ses fans se sont bien servis.
Absolument, il a fait le poirier. Puis alors, mon père l'admirait parce que c'était Douglas Fairbanks dans les années 20, 30, 40. C'était Robert De Niro aujourd'hui, au point de vue célébrité.
Oui.
Et donc, mon père était fan de ça. Il nous a d'ailleurs emmenés, nous les enfants, à la Cinémathèque qui était encore avenue de Messine à l'époque. Et alors, les films étaient muets et j'ai vu le voleur de Bagdad et les trois mousquetaires avec Douglas Fairbanks. Et bref. Mon père a rencontré Douglas Fairbanks en 1937 à l'hôtel de Crillon et lui a dit « Je suis votre admirateur le plus formidable du monde. Mon premier fils s'appellera Douglas. » Et ma mère, enceinte de moi, a dit à mon père « Ça serait bien que son premier prénom soit un prénom français. » Ce qui fait que Pierre Douglas, ce sont mes deux prénoms. Et sinon, je m'appelle Pierre Douglas Melon, comme le fruit. Mais j'ai laissé le fruit chez les marchands de primeurs et j'ai gardé Pierre Douglas comme nom d'artiste.
Vous avez laissé le fruit, vous êtes devenu une grosse légume. Et puis, il y a quand même un film qui vous a marqué, Pierre Douglas. Alamo avec John Wayne, car vous avez eu droit à une version traduite par votre père devant les spectateurs au cinéma.
Extraordinaire. On était au cinéma Miramar, à Montparnasse, qui existe toujours, et mon père décide de nous emmener voir Alamo. Mon père allait toujours voir les films d'abord tout seul, puis quand il considérait que c'était pour les enfants, il nous emmenait. J'avais ma grande sœur et mes deux petits frères et ma mère, et comme nous sommes arrivés un petit peu au dernier moment au cinéma Miramar, nous étions tous disséminés dans des endroits différents du cinéma et de la salle, et mon père nous appelait en disant « T'as vu ça? Regarde ça! Regarde, c'est extraordinaire !» Et alors il criait dans le cinéma. Alors ma mère savait plus où se mettre, mais mes frères et sœurs, on se marrait. Et puis à un moment donné, mon père, il y avait devant lui une dame qui avait un chapeau avec une petite voilette, elle s'est retournée pour voir qu'est-ce qui criait comme ça. Il lui a revissé la tête vers l'écran en disant « Madame, c'est là-bas que ça se passe !» Et alors à la fin, John Wayne est debout, il reçoit
une lance
dans le thorax et en tombant, il fait sauter le dépôt de munitions et mon père se lève en criant « Les salauds, ils m'ont eu !» S'il y avait des gens encore vivants dans la salle, ils doivent s'en souvenir.
Ah oui, c'est le genre de choses qui marquent. D'ailleurs, Alamo, John Ford est venu tourner quelques séquences, comme ça pour le plaisir, des séquences, parce qu'il aimait bien John Wayne, mais aucune de ces séquences ne figure dans le film original. Elles ont été replacées dans une nouvelle version de 3h23 qui est ressortie il y a quelques années.
Mais que j'ai acquise en DVD, je l'ai encore regardé il n'y a pas longtemps, c'est extraordinaire. C'est une manière westernienne de penser à mon père.
Voilà, et vous pensez à votre père et nous, on pense à vous, avec une autre date, le 13 juillet 1977. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Pierre Douglas.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Douglas. Il y a ce livre Rire au paradis dont on va parler tout à l'heure. Mais il y a une date importante, 13 juillet, qui précède le 14 juillet 1977. Vous arrivez dans l'ordre le 13 juillet et le 14 juillet va se passer un événement considérable.
Le 14 juillet va se passer un événement qui a été un tournant de mon existence.
Et je vais vous faire entendre la voix de celui qui est un tournant de votre existence.
Mes chers camarades, et je suis heureux et ému d'être là, car vous le savez, je m'adresse.
Thierry Leluron. Et là, c'est.
Et Thierry Leluron imitant Marchais.
Oui.
Et c'est parce que j'ai été le premier à imiter Marchais que lui l'a admirablement bien pris et m'a ensuite emmené au Don Camillo, ce qui a changé ma vie. Mais.
Ce 14 juillet.
Alors, le 14 juillet, il y avait un chapiteau avec 3000 personnes. Toutes les places étaient vendues pour le One Man Show de Thierry Leluron et de ses musiciens. Et donc, notre amie Sylvia Huffert, dont l'époux Hubert Basso était le maire de Tingebray, dit. Par votre intermédiaire, mon cher Jacques, venez, Pierre, vous allez rencontrer Leluron. Moi, j'étais au service politique de TF1, j'étais un journaliste censé sérieux, en tout cas à l'antenne, je l'étais. Et Leluron arrive à table, on était une vingtaine, il dit alors, bonjour monsieur, il paraît que vous imitez Marchais, je lui dis il paraît que vous imitez Giscard, et nous avons improvisé un dialogue entre Marchais et Giscard. Et,
sur des bancs en bois, je me souviens très bien.
Absolument, une très très belle salle à manger. Et Leluron s'est aperçu tout de suite que non seulement j'imitais convenablement Marchais, qui était à l'époque une star, et comme il y avait 4 radios et 3 télés, il y avait 10 millions de téléspectateurs à chaque fois, mais il s'est aperçu que quand je faisais parler Marchais, je lui faisais dire des choses en regard avec l'actualité politique, puisque je la couvrais professionnellement. Et il m'a fait refaire ce dialogue avec lui sur scène devant 3000 personnes, ce qui pour moi était un événement absolument incroyable.
Totalement improvisé.
On a improvisé un dialogue entre Giscard et Marchais, et puis en sortant de scène, il m'a dit, vous avez vu le succès que vous avez eu, Marchais, je ne l'imite pas, ça viendra plus tard. Et il m'a dit, il faut que vous fassiez vos débuts sur scène. Il m'a emmené au Don Camillo, où j'ai été engagé 15 jours plus tard.
Oui, où ça n'a pas été facile au début, parce que les Chinois qui vous écoutaient ne comprenaient pas tout, Pierre Douglas.
J'ai commencé sur scène le 29 juillet 1977, et j'ai donc assuré tout le mois d'août. Je présentais le spectacle et je faisais mon tour de 20 minutes, mais il y avait beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais. Et effectivement, il y avait des soirs, je rentrais à la maison et je disais, c'était pas terrible aujourd'hui, il faut que je fasse un effort. Et Jean Verne, le patron de Camillo, me disait, c'est bien parce que le Luron vous a présenté, il va falloir que ça s'améliore tout ça. Et en fait, il m'a fallu 3 semaines pour mettre un tour au point. Et à partir de là, tout est parti.
Oui, et le Luron doit beaucoup au Don Camillo aussi, puisqu'un soir, un personnage vient, le trouve formidable, et va dire à Régine, ce type est jeune, il faut que tu le connaisses. C'était Fernand Reynaud, qui a été le premier à repérer Thierry le Luron, et qui l'a présenté à Régine, qui est devenue une amie de Thierry.
Absolument.
Et il l'a surnommé Twist Tagen.
Voilà.
C'était autre chose.
Je voudrais dire, cher Jacques, que 3 ans après mes débuts, le Luron s'est mis à imiter Marchais. Il le faisait très bien, chacun à sa manière. Et il m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit, quand j'imite Marchais, c'est toi que j'imite.
C'est-à-dire...
De la part d'une vedette, dire ça à un gars qui débute et reconnaître que l'autre a été le premier, c'est vraiment une des raisons supplémentaires pour lesquelles j'admirerais toujours Thierry et garderais de lui un souvenir formidable.
Et vos premières imitations, Pierre Douglas, c'était vos professeurs à l'école?
Oui, c'était mes professeurs à l'école parce que je savais que c'était le seul moyen de faire rire mes copains, voilà. Et je voulais les faire rire.
Et ensuite, il y a eu Léon Zitrone. Et Léon Zitrone, vous l'avez imité et il adorait en plus.
Il adorait ça. Il m'a dit un jour, quand j'étais à l'Alcazar, j'avais présenté le spectacle de l'Alcazar, il m'avait dit, j'aime bien que vous m'imitiez sur scène parce que vous le faites tard. Moi, je me couche tôt et je me dis comme ça, même quand je dors, il y a un mec qui parle de moi.
C'est magnifique.
C'est tout Léon.
Voilà. Alors justement, et Léon Zitrone, quand vous étiez justement journaliste à RTL,
oui.
Il y avait des grandes réunions dans le studio où vous jouiez l'imitation de Zitrone enterrant le général Franco.
Oui, tout à fait. C'est le premier texte que j'ai eu l'idée, c'était l'enterrement de Franco par Zitrone.
Et ça donnait quoi
mesdames et messieurs, nous sommes actuellement en direct de Madrid, dans une atmosphère totalement bouleversante. Le petit cercueil, que dis-je ? Le tout petit cercueil
Mais que dis-je ? Le minuscule petit cercueil du général Franco, porté par un seul croque-mort, va être balancé au milieu de la nef. Mesdames et messieurs, bonjour.
Voilà, et ça marchait très bien. Alors, il se trouve aussi que vous avez travaillé avec Léon Zitrone, qui se levait tôt pour faire le journal de RTL. Il arrivait en pantoufles, quelquefois.
Oui, oui, oui.
Et un jour, je crois que vous êtes allé le chercher, parce qu'il ne s'était pas réveillé. Il s'est plaint de violation de domicile.
Oui, alors il n'était pas content, parce qu'on a envoyé quelqu'un le chercher. Moi, j'étais son nègre, comme on ne peut plus dire aujourd'hui.
Oui.
Disons que je travaillais pour lui. Et il est arrivé à 7h-2, on a envoyé un technicien en voiture et j'avais rédigé tout le journal de 7 heures que devait faire Zitrone. Il me l'a pris des mains, très gentiment, en me disant « J'ai été speaker à la SNCF, j'ai réussirai sûrement à vous relire. »
Et il arrivait avec sa viande dans
une... C'était épouvantable. C'était épouvantable. Il s'installait au micro d'RTL et il posait sur la table une boule de viande hachée et un yaourt. Alors, pendant la pub... Il mâchait un petit peu de viande hachée et un peu de yaourt. Et puis, à un moment donné, on lui a dit « Léon, c'est à vous, la pub est terminée. » Il n'avait pas fini sa bouchée. Donc, il a pris sa bouchée, il l'a mise dans le cendrier et il l'a fini après la deuxième pub. Voilà. Mesdames et messieurs, bon appétit.
Exactement. Alors, Marchais, en revanche, n'aimait pas du tout que vous l'imitiez.
Au départ, il l'a bien pris. Je l'ai rencontré une première fois à France Inter. Il l'a plutôt bien pris. Il m'a dit à l'Assemblée, on me dit « Ah, Georges, t'as ton imitateur, etc. » Ce qu'il a moins aimé, c'est ce que je lui faisais dire sur le plan politique. Là, il a moins aimé.
Mais un jour, moi, je me souviens d'une émission de télévision où Mourouzi vous interview et vous répondez avec la voix de Marchais, Pierre Douglas.
Ouais, c'était mes tout débuts. C'était mes tout débuts.
Ça aussi, Mourouzi, c'était de l'improvisation totale.
Ah, complète. Lui, il était assis, il avait une fesse sur la table avec ses cigarettes à la main, il n'avait pas de notes, rien du tout, et il était parfait.
Comment est venue l'imitation de Marchais, finalement ?
Mais j'étais au service politique de TF1, donc mars 77, il y a eu des élections cantonales. Et le patron me dit, tiens, vous allez aller au siège de l'Humanité pour interviewer Marchais. Et j'ai été très étonné de la façon dont il parlait. Et quand je suis rentré à la rédaction, j'ai dit, vous avez vu comment il parle ? C'est extraordinaire. Il ne dit pas les travailleurs et les masses populaires sont dans une situation globalement difficile. Il dit les travailleurs et les masses populaires sont dans une situation intenable. Alors, j'ai trouvé que cet accent était tellement hallucinant que je me suis mis à l'imiter comme ça. C'est venu tout de suite. Une imitation, ça vient tout de suite ou ça ne vient pas. Et puis, à la fin des conférences de rédaction, on me disait toujours « Qu'est-ce qu'il dirait, Marchais ?» Et je résumais l'actualité politique avec sa voix.
Alors, le journalisme Pierre Douglas, ça a démarré très discrètement à Limoges, je crois, sur la chaîne régionale.
Sur France 3 Limoges, ouais. en mars 1966.
Et vous présentez le jour. Comment vous êtes arrivé là ?
Eh bien, j'avais donc connu José Arthur quand il m'avait engagé. Quand je lui ai dit, je peux rester que 6 mois parce que je pars à l'armée. Quand je suis revenu de l'armée, j'ai revu José Arthur. Et je lui ai dit, je voudrais être Tintin. Je voudrais être journaliste. Je voudrais être le premier sur un événement et le raconter à ma manière. Et il m'a dit, allez à la délégation station régionale. Ils m'ont dit, il y a un journaliste qui vient de démissionner de France 3 Limoges. Est-ce que vous prenez la place ? J'ai dit, oui, j'ai pris mon baluchon, je suis parti.
Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une école de journalisme pour le devenir.
En ce qui me concerne, ça n'était pas nécessaire à l'époque.
Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus difficile.
Ça serait beaucoup plus difficile.
Alors, vous avez aussi fait de la radio sous le nom de Paul Pelletier, je crois.
Oui, parce que je suis entré à Europe 1 après une demande que j'ai multipliée par téléphone. Et,
tous les jours pendant 5 mois.
Tous les jours pendant 5 mois. J'ai téléphoné du lundi au vendredi, tous les jours pendant 5 mois. À Josiane, la secrétaire de Gorigny, qui avait des matins, on parlait même pas du rendez-vous. Puis un jour, elle me dit « T'es assis, t'as rendez-vous ». Bref, j'ai eu rendez-vous, j'ai été engagé. Mais les 2 premiers mois, je ne devais pas prendre mon nom, Pierre Douglas, à l'antenne. Donc, tous les stagiaires, on s'appelait Paul Pelletier. Et quelquefois, dans le même journal, il y avait 3 Paul Pelletier. Il y en avait un à Clermont-Ferrand, l'autre à Marseille, le troisième à Tourcoing. Paul Pelletier était partout.
Et votre première interview était catastrophique, c'était Juliette Gréco, je crois.
Oui, ça c'était bien avant, c'était en 64, alors, c'était avec José Arthur. Et là, j'ai interviewé Julie Gréco à Bobineau. J'étais immensément impressionné. Je lui pose 2 questions. La 3e question ne vient pas. Elle me regarde, elle me dit « Alors, mon petit gars, il n'y a plus de charbon dans la machine ?» J'ai jamais oublié la preuve.
Et vous avez préparé vos interviews ensuite.
Oui.
Mais vous avez pris des risques. Un jour, vous êtes retrouvé sous les bombes en tant que reporter.
Oui, j'ai fait ce qu'on appelle un grand reportage, puisque c'était la guerre civile en Irlande du Nord, en 72, en juillet-août 72. Et il y avait 15 morts par nuit, et on m'a envoyé là-bas pour voir comment ça se passait. Je suis resté 10 jours, et effectivement, un soir, je me suis caché derrière un tank, et il y avait 2 tanks à 200 mètres l'un de l'autre qui s'envoyaient des horreurs. Et puis, il y a un soldat anglais qui m'a dit « Ne restez pas là, rentrez dans l'immeuble », et j'ai traversé les 4,50 m du trottoir à la vitesse de la lumière, et j'étais tellement impressionné que je suis monté au premier étage, j'ai mis mon micro par la fenêtre pour enregistrer et je me suis endormi à côté de mon magnétophone tellement j'étais épuisé.
Mais le reportage est passé.
Le reportage est passé.
Avec les bruits qui étaient des bruits vrais, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Il y avait des journalistes qui truquaient leur reportage avec de faux sons.
Oui, il y a un journaliste, je ne veux pas le citer, qui nous a quittés d'ailleurs quelques temps. Il était en reportage en Algérie, la fameuse fusillade de la rue de l'Isli. Et il a fait tomber des petits pois dans une casserole et je ne savais pas que ça faisait le bruit d'une mitraillette.
Et puis vous avez réalisé un rêve, Pierre Douglas, c'est faire le Tour de France.
Oui. J'ai toujours été fan de vélo depuis 1954, lorsque Louison Bobet est devenu champion du monde. Je me suis dit, je vais faire du vélo. J'ai demandé à mon père de m'acheter un vélo comme Louison Bobet. Mon vélo était noir, je ne l'ai pas en jaune. J'ai écrit Louison Bobet dessus, j'avais l'impression de rouler plus vite. Et j'ai suivi le Tour de France avec une idole, puisque j'idolâtrais Jacques Anquetil. Et je me suis retrouvé au même micro à côté de Jacques Anquetil. Nous sommes devenus amis. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez un gamin de 10 ans aujourd'hui qui dit Mbappé, c'est ma star, et qui dans 10 ans commentera des football avec Mbappé. Vous vous rendez compte ce que c'est pour un gamin, c'est extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance.
Oui, et la chance en plus de dormir dans la même chambre que Jacques Anquetil
une
nuit.
Alors la première fois on s'était rencontrés, je lui pose une question sur le Tour d'Italie, il me dit si vous me parlez vélo, on ne va pas s'entendre. Tout s'écroulait pour moi. Et on m'a dit t'inquiète pas, c'est parce qu'il est timide. Et le départ du Tour de France 71, nous étions dans un immense immeuble qui avait été construit par M. Merlin. Et il y avait une chambre à deux lits et je me retrouve par hasard dans la même chambre que Jacques Anquetil. On était l'un à côté de l'autre, je disais pas un mot. Et puis vers 11h du soir, il me dit c'est bien une question sur l'étape des Dolomites du Tour 60, du Tour d'Italie de 1960 que tu m'as posé. J'ai dit oui. Et il m'a raconté sa carrière pendant 3 heures. On est devenus amis jusqu'à sa mort et c'était un type absolument unique.
Unique, même dans sa façon de vivre et de travailler.
Ah, complètement.
Il y a une journée de repos à Andorre un jour, il y a un méchoui, il local, il s'y attaque, on lui donne un petit morceau et il dit « Tu te fous de moi, tu me prends pour un rouge-gorge
oui. ».
Il a demandé la sangria derrière, il a passé la journée à manger et le lendemain, il a pratiquement gagné l'étape.
Ah oui, non, mais c'était quelque chose d'absolument invraisemblable. Et il m'avait raconté, quand on suivait ensemble le tour, et on suivait une étape contre la montre, donc le coureur tout seul. Et à un moment donné, il y a un faux plat, enfin, pas une côte, mais vraiment un faux plat, le truc difficile de 300 mètres. Et il me dit, tu vois, contre la montre, c'est là que je faisais la différence. Parce qu'il chantonnait son rythme en pédalant. Tang, 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 tang. Il chantonnait son rythme et il me disait, quand ça va, je vais arriver dans le faux plat, il ne faut pas que je diminue mon tempo.
Voilà.
Et il m'a dit, quand je prenais le départ d'une course contre la montre, au bout de 2 minutes, j'avais trouvé ma position, et alors là, je m'installais dans la douleur. Extraordinaire.
C'est un personnage fabuleux, vous en parlez de beaucoup d'autres dans ce livre dont on va parler dans quelques instants, à travers une date, le 12 décembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Douglas, 12 décembre 2019, sortie de Rire au paradis ne serait pas convenable, alors n'attendons pas, chez Fortuna, un livre au titre un peu long quand même, non ?
Oui, le titre est un petit peu long, il y a une espèce de, pas une mode, mais enfin il y a quelques bouquins de temps en temps avec un titre un peu long, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai emprunté, enfin je me suis servi de Jules Renard pour cette formule, parce que Jules Renard a écrit très exactement « On ne rira pas en enfer », au paradis, c'est
au paradis.
Non, mais entre les deux, au purgatoire, c'est rare, oui. Et au paradis, ça serait pas convenable.
Voilà.
Alors moi, j'ai dit, pour trouver le côté optimiste, parce que j'ai toujours été l'homme du verre à moitié plein, et comme on ira tous au paradis, je me dis, mais ça serait pas convenable d'y rire, alors n'attendons pas.
Voilà. Alors ce livre, c'est le récit de ce que vous considérez comme le plus beau métier du monde, faire rire, Pierre Douglas.
Oui, je crois que c'est un des plus beaux métiers du monde, c'est une satisfaction extraordinaire, et c'est une chance d'y arriver.
Mais avec beaucoup, beaucoup de travail, car quand on lit votre livre, on s'aperçoit que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup insisté pour y arriver, Pierre Douglas.
Oui, j'ai beaucoup insisté, parce que j'ai toujours considéré, mon cher Jacques, que quand on me dit que quelque chose qui m'intéresse n'est pas impossible, je ne me dis pas peut-être, je vais essayer, je me dis je vais l'avoir.
Oui.
Je vais l'avoir. Et j'ai toujours fait comme ça. Je n'ai pas toujours réussi, mais je me suis toujours dit, je vais l'avoir. Et par exemple, pour rentrer à Europe 1, j'ai téléphoné tous les matins pendant 5 mois, j'ai été engagé.
Bon, voilà. Bon. Et la télé, ça a commencé avec celle-ci.
Alors, vous avez le choix entre le kaléidoscopique. Je ne vais pas y arriver.
Vous l'avez fait rire, Denise Favre.
Oh là là.
Comment vous êtes arrivé avec elle le samedi après-midi, Pierre Douglas ?
Eh bien, j'ai fait mes débuts donc à Millau le 29 juillet 1977. Et puis, quelques jours après, Mourouzi m'a invité au journal de 13h qui présentait. Et j'avais travaillé avec lui. Et on s'était liés d'amitié. Et il avait trouvé que le début de ma carrière, que l'imitation de Marchais, ça valait le coup. Donc, il m'a invité au journal de 13h. Et puis, ils ont dit, on reçoit Georges Marchais. Et puis, ils m'ont filmé sur les chaussures et les chaussettes. Et pendant une minute, ils ont monté tout doucement pour qu'on voit le visage de celui qui n'était pas Marchais et qui limitait. Et à ce moment-là, j'ai appris que Michel Denisot arrêtait les samedis après-midi de TF1 et TF1 m'a appelé en me disant voilà, Jean-Louis Guillot, le PDG, avait reçu ma démission, il était sidéré, il a envoyé quelqu'un voir Odon Camillo, il a vu que ça se passait bien et ils m'ont proposé le samedi après-midi de TF1, ce qui ne se refuse pas. Voilà. Mais j'ai emmené Garcimore avec moi. Garcimore était au Odon Camillo.
Et vous l'avez fait débuter.
Ah oui, tout à fait. Il était au Odon Camillo, complètement inconnu. Mais le grand talent de ce garçon-là, et ça m'emmerde vraiment qu'il soit parti, mais bon, c'était qu'il faisait des tours de magie, il faisait semblant de les rater, puis il les réussissait, et il était drôle.
Voilà.
Donc ça, c'était formidable. Et donc, je me suis dit, j'ai dit à Eliane Victor, qui était la productrice, je lui ai dit, écoutez, on pourrait faire une petite récré d'une minute et demie entre les différentes séries qu'on présentait, Amicalement Vaude, Goldorak, La Petite Maison dans la Prairie, etc. On pourrait faire une petite virgule avec un tour de Garcimore. Et il est devenu une vedette avec cette émission.
Oui. Très, très vite. Il y avait du courrier lui reprochant d'avoir les cheveux sales, parfois.
Et justement, la productrice me dit, écoutez, dites à José de se faire un shampoing le jour de l'émission. J'étais à l'aise, moi. J'étais à l'aise. Alors, je l'emmène déjeuner avec moi. J'ai dit, José, je vais te dire un truc. Je me suis fait expliquer un truc, là. Il y a un problème d'éclairage dans le studio où on est. Il faut absolument que les animateurs se fassent un shampoing le jour de l'émission. Toi et moi, parce que Denise, elle doit en faire 3 par jour. Et je dis, toi et moi, il faut qu'on se fasse un shampoing le jour de l'émission. Il m'a dit, oh, j'oublierai pas, t'inquiète pas. Ne vous trompez jamais, vous. Et on s'est fait un shampoing le samedi.
Il y a une anecdote que Gilles Boulot, qui présente aujourd'hui le journal de TF1, raconte. À l'âge de 6 ans, lorsqu'il était passage, ses parents lui montraient la télé en disant « Je vais le dire à Denise Fabre, elle va venir te gronder. » Et il voyait Denise Fabre, il avait peur d'elle. C'est extraordinaire, ça.
Faut que j'appelle Gilles pour savoir s'il s'est remis.
Je pense. Alors, il y a eu la télévision et il y a eu le théâtre. Et le théâtre, c'était aussi une autre de vos passions. Ça a commencé, Pierre Douglas, avec SOS Homme Seul, qui était la première pièce d'une longue série.
C'est la première pièce de ma vie. Et Dominique Villard, qui dirigeait les tournées Charles Barret, était venu me voir au caveau de la République, où je terminais le spectacle comme chansonnier, comme humoriste sur la politique, etc. Et elle, à la sortie, elle m'attendait, elle m'a dit « Venez me voir aux tournées Barret, vous êtes un acteur ». Alors j'étais très fier, j'avais pas fait de conservatoire ni rien du tout, mais bon, j'avais 7 ans de cabaret et c'était une bonne école. Et donc Robert Manuel a été mon premier metteur en scène et nous avons joué SOS Homme Seul en tournée. On a fait une 60aine de villes à l'époque, ça turbinait.
Oui, Robert Manuel qui vous a valu un cauchemar, vous avez fait une croisière sur un bateau. Et ça, c'est pas votre truc, c'est plutôt une galère, Pierre Douglas.
Oui, sur le bateau, encore pour la croisière, ça a été. Mais il m'est arrivé d'être extrêmement malade en bateau. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais encore journaliste, j'ai fait un reportage sur la pêche au chalut.
C'était chalut, au revoir.
C'était chalut, au revoir. Et c'est pas difficile, on est arrivé au bout du quai. Je vomissais déjà. Et ça a duré 10 heures, c'était épouvantable, mais j'avais envie de mourir. Mais dès que je suis sorti, j'ai retrouvé la faim et j'ai été manger des huîtres.
Et Robert Manuel, on l'a un peu oublié aujourd'hui, était un grand comédien.
Oui.
Il a été à la Comédie Française, oui. Il collectionnait Molière. Mmh. Et moi, je me souviens d'une conférence à Deauville qu'il donnait sur Molière. Il y avait 8 personnes dans la salle, dont un qui dormait au premier rang. Et à chaque fois, il s'approchait de cette personne, il hurlait dans les oreilles, ça réveillait la personne qui se rendormait. C'était un personnage étonnant.
Il était très dur, très dur, très exigeant. Et il aimait beaucoup dire, moi, je n'ai jamais eu de talent, mais j'ai toujours su mon texte et j'ai toujours été à l'heure.
Ouais, c'est une belle formule.
Il a fait mieux que ça.
Et au théâtre, vous avez joué des tas de choses, dont Britannicus avec la voix de Marchais.
Oui, alors en fait, je n'ai pas joué de Britannicus du tout, mais il se trouve qu'on rendait hommage à Robert Manuel qui fêtait ses 50 ans de Comédie Française. Ça s'est passé au Théâtre Marigny et le metteur en scène Jean-Luc Moreau me dit, tous ceux qui ont travaillé avec Robert Manuel, vous avez 5 minutes pour lui rendre hommage. Et alors, il y avait un parterre, je ne raconte pas, le parterre qu'il y avait. Il y avait tous les acteurs possibles et imaginables. C'était un lundi soir, donc les acteurs étaient en repos. Ils étaient tous dans la salle, je me rappelle, il y avait Robert Hossegne, etc. C'était formidable. Et puis, je me suis dit, je me suis tourné vers Robert qui était sur la scène. Je lui ai dit, cher Robert, j'ai été très heureux de travailler avec toi, ce qui est presque vrai. Et je lui ai dit, écoute, tu m'as toujours fait travailler en prose. Pour te rendre hommage, je vais te réciter quelque chose en vers. Et j'ai dit, mesdames, messieurs, voici un extrait de Britannicus. Mais là, avec le parterre qu'il y avait, j'aurais été ridicule si je n'avais pas commencé en disant « Cette nuit, je l'ai vu arriver en ces lieux, triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. » Alors là, je dois dire que franchement, j'ai tout ramassé.
Je pense. Dans ce livre, « Rire au paradis ne serait pas convenable », vous évoquez aussi des choses qu'on ne sait pas sur vous, notamment que vous avez fait du cinéma avec et grâce à Claude Chabrol, Pierre Douglas.
Oui. Ça démarrait bien pour moi, cabaret, samedi après-midi de TF1, etc., France Inter, tous les matins, de 78 à 82, et je me suis dit, il faut que je fasse l'acteur. faut que je fasse l'acteur. J'ai envie de jouer la comédie, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre, j'ai envie d'être faire le métier d'acteur. Et j'appelle Bertrand Tavernier, François Truffaut et Claude Chabrol. Et c'est Claude Chabrol qui me répond le premier. Je l'invite à déjeuner parce que je savais qu'il aimait bien ça. Et puis on s'est retrouvés à table, dans une auberge à Notre-Dame, l'auberge des Deux Cygnes. Et puis il me dit, pourquoi vous vouliez me voir? Ben, j'ai dit, pour faire l'acteur. C'est le plus beau métier du monde. Il dit, regardez, moi qui ne serai jamais cocu, le seul moyen que j'ai pour savoir l'effet que ça fait d'être trompé par sa femme, c'est de jouer un rôle de cocu.
Exactement.
Et Jacques Chabrol me regarde et il me dit, mon cher Pierre, je suis en train de préparer une nouvelle de William Irish qui s'appelle la boucle d'oreille. Jacques Spisser est l'amant. Thérèse Diotard est la femme. Et vous êtes le mari. Vous êtes cocu, vous avez le rôle.
Et ben voilà. Et Lino Ventura vous a donné pas mal de conseils.
Il m'a donné des conseils, c'était formidable parce que j'ai tourné avec lui une dizaine de jours. On s'est mis à se tutoyer. C'est lui qui en a pris l'initiative, bien sûr. Il était aussi simple dans la vie que talentueux sur scène. C'était un type absolument génial, une gentillesse extrême, aucune jalousie, aucun problème d'ego. Et je devais avoir à un moment donné un regard qui devait faire rire. Et j'avais un regard qui faisait rire personne. Il s'est retourné vers moi, il m'a vu, et quand la scène a été terminée, il m'a dit, tu sais, il y a deux manières de faire rire. Il y a deux funesses, ou bien tu fais rien. Et tout est dans les yeux. Il m'a dit là, tout est dans les yeux. Et après, Francis Weber, qui avait écrit le scénario de ce film à sketch que j'avais fait avec Ventura, m'a téléphoné pour me dire, dans cette scène avec Lino, tu es formidable. C'était grâce à Lino.
Alors, vous avez aussi fréquenté, mais pour des raisons professionnelles, le monde politique. Mmh. Vous avez fait la première campagne pour la mairie de Paris de Jacques Chirac.
Oui.
Vous avez passé des valises, d'ailleurs, avec des billets de banque.
Oui, j'ai vu passer quelques billets de banque.
À l'époque, ça existait. Mais surtout,
oui, comme vous dites.
Mais surtout, vous avez fait la campagne de François Mitterrand et vous avez conservé des liens, ce qu'on ne savait pas, ce que j'apprends dans ce livre, avec François Mitterrand qui vous recevait à l'Élysée.
Il m'a invité 3 fois à déjeuner à l'Élysée pendant ces 2 septennats. Et en fait, j'avais été chauffer la salle pendant ces meetings. Et je me rappelle à Strasbourg où c'était formidable parce que j'étais en train d'imiter Marchais. Mitterrand arrive, il y avait 6000 personnes. Il arrive devant moi, il me dit, vous parliez? Je dis oui, il me dit, continuez, on n'est pas 2 minutes près. Et j'imite Marchais. Et là, toutes les caméras étaient sur lui. Et il était, on aurait dit Ramsès II. Il était là, mais imperturbable. Comme disait mon ami Jean Amadou, il n'aime pas qu'on l'appelle Ramsès II, mais il s'est quand même fait construire une pyramide dans la tour du Louvre. Bref, dans la cour du Louvre. Eh bien, donc, on a repris l'avion, après l'avion privé de Mitterrand au retour. Il y avait avec moi Daniel Balavoine, il y avait Alain Bombard, il y avait Christine Claire. Et Mitterrand me dit, il faut que je m'excuse auprès de vous parce que je ne pouvais pas rire pendant que vous imitiez Marchais. Parce que j'ai besoin de ses voix au deuxième tour, vous comprenez?
Oui, exactement, ce qui est assez logique. Et vous l'avez rencontré, il était très étonné, Mitterrand, parce que vous n'aviez besoin de rien.
Oui, alors on va déjeuner à l'Élysée, et après le déjeuner, on prenait le café dans la bibliothèque, et ensuite, on avait un aparté avec le président, il isolait chaque invité pour avoir une minute de dialogue avec lui. Et je me rappelle, je vais pas partir, et il me dit, j'ai été très content de vous voir et tout ça, etc. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous imaginez un artiste à qui le président de la politique... Et c'est venu comme ça, je dis, écoutez, monsieur le président, je suis sur France Inter tous les matins, je suis tous les samedis après-midi sur TF1, et le soir, je suis donc à Mio, au Cabo de la République. Tout va bien, je n'ai besoin de rien. Alors, un peu étonné, il me dit, voulez-vous une voiture avec un chauffeur pour vous ramener? Je dis, je suis venu en scooter. Et là, il me regarde et me dit, vous êtes impayable.
Voilà. Alors, vous avez aussi connu Giscard, mais un soir, à la fin d'un dîner, il avait le bruit de la langue que connaissent bien les imitateurs.
Ah oui, ça chantait beaucoup. Ouais. Ça chantait beaucoup. Je lui ai dit, vous allez bien? Il m'a dit, je sais.
Alors, c'était des rares soirées mondaines parce que vous étiez sur scène, mais les soirées mondaines, l'opéra à Versailles, ça ne vous intéressait pas du tout, Pierre Douglas?
Non, enfin, je suis rarement allé à l'opéra. Je ne sais pas pourquoi, je suis extrêmement immergé dans la musique classique, mais surtout la musique symphonique, et je ne connais pas bien les opéras. Mais je vais au concert régulièrement, j'écoute de la musique pratiquement tous les jours, et j'ai appris la direction d'orchestre qui me permet aujourd'hui de diriger des concerts de temps en temps, et c'est une satisfaction alors qui est indéfinissable, parce que j'ai dirigé le Requiem de Mozart à Saint-Germain-des-Prés, vous êtes devant 60 choristes, 40 musiciens, vous faites 2 gestes et vous entendez du Mozart, vous êtes au paradis.
Oui, vous avez fait 11 ans de cours.
J'ai pris 11 ans de cours pour avoir un premier accessit de direction d'orchestre.
Oui, et quelquefois d'ailleurs dans la direction d'orchestre, vous faites des imitations aussi. C'est arrivé, j'ai vu une image où vous imitez Marchais.
Ah oui, oui. Alors c'était en fait, j'avais fait un concert à Provins et c'était Pierre Réac, le pianiste qui jouait le concerto de Schumann, j'avais dirigé l'orchestre. Et ensuite, on a fait un sketch avec lui au piano et j'ai chanté Erl Koenig, mais en imitant Mitterrand et Giscard. Et je veux dire que ça, c'était très rigolo parce que on chantait Verreit so spät durch Nacht und Wind, es ist der Knaben mit seinem Kind. Là, je dois dire qu'on a eu beaucoup de succès.
Oui. Remarquez, à l'opéra, vous l'avez échappé belle. Je me souviens d'une soirée à l'Opéra Garnier, une première, où il y avait le tout Paris qui était là, avec un dîner à la fin. Malheureusement, le poisson était pourri. Ça a fini avec 150 personnes à l'hôpital. Et le traiteur Potel et Chabot est devenu mortel et pas chaud.
Je ne connaissais pas ça.
C'est une belle histoire. Alors, et finalement, aujourd'hui, au bout de 40 ans, de plus de 40 ans, vous êtes heureux parce que vous faites ce que vous aimez et vous continuez. Vous êtes un bouffon utile et un vieux fringant, Pierre Douglas.
Ça me plaît bien, ça, cette définition.
Ça correspond
à... Oui, je continue à être très heureux sur scène. J'ai fait un one-man show au Canet, à côté de Cannes, vendredi dernier. Et j'ai dit au public à la fin, vous voyez, j'ai plusieurs raisons pour lesquelles je suis extrêmement heureux d'être sur scène. D'abord, vous le voyez que je suis content d'être devant vous. Imaginez que vous ne soyez pas là. Et puis d'autre part, sur scène, c'est aujourd'hui le seul endroit où on peut raconter ce qu'on veut.
Oui, et effectivement, nous, le slogan de Sud Radio, c'est « Parlons vrai ». Et vous, vous dites que les hommes politiques sont atteints d'une surdité sélective.
Ils sont atteints d'une surdité sélective.
C'est un peu...
Indiscutable. Vous savez, ils ont cette phrase « Dites n'importe quoi sur moi, mais dites quelque chose ».
Oui, c'est ça. Et vous, au bout de 40 ans d'observation de tous ces côtés, vous concluez quoi, Pierre Douglas ?
Je conclus que je parlerai toujours de la politique pour faire rire, parce que c'est quelque chose de trop sérieux pour qu'on ne rie pas avec ça. Mais je n'ai pas confiance dans le pouvoir politique, j'ai pas confiance.
Et vous continuez vos seuls en scène. Le théâtre, vous avez joué une pièce que vous reprenez aujourd'hui, ça reste entre nous.
Oui.
Vous êtes donc à Millau de temps en temps avec votre scooter. Votre vie, elle est bien remplie. Vous pourriez tranquillement vous reposer et arrêter tout ça.
Oui, mais je serais très malheureux. Tant que j'ai la mémoire et que le public est content de me voir, je serais totalement désespéré si je devais m'arrêter. Alors je continue.
Vous continuez
plus longtemps. En attendant d'aller rire au paradis.
Oui, le plus tard possible. En tout cas, tous ces souvenirs et même d'autres sont dans ce livre « Rire au paradis ne serait pas convenable, alors n'attendons pas » chez Fortuna. Un livre que vous avez écrit directement. Vous n'avez pas eu de nègre, comme on ne dit plus aujourd'hui.
Je l'ai écrit avec mon épouse.
Voilà.
Parce que mon épouse écrit mieux que moi, et moi je parle mieux qu'elle ne parle. Donc on s'est réparti la tâche. On a fait ça ensemble.
Très bien. En tout cas, je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'autres anecdotes que celles que nous avons racontées. Merci Pierre Douglas d'avoir participé à Ces Clés d'une vie avec votre humour habituel.
Merci mon cher Jacques, à la prochaine aventure.
Absolument. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye, et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci et à demain.